L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Michel Bénard, bonjour.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de la grande question des pesticides qui est une question fondamentale en termes de santé environnementale, en termes de politique agricole et qui n'en finit pas de rebondir et qui avance petit à petit. Alors, Michel Bénard, tu fais partie du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est que ce collectif ?
Donc, on a gardé le terme de collectif, mais en fait, c'est une association loi 1901. Qu'on a créé en 2016, en avril 2016, et qui s'est fixé deux principaux objectifs. Un, soutenir les victimes des pesticides, donc pour essentiel des agriculteurs. Et deuxième objectif, la défense des riverains, en particulier par rapport aux épandages à proximité des habitations. Et les moyens qu'on se donne pour faire ça, à côté, c'est l'organisation de beaucoup de ciné-débats ou de conférences partout où on nous demande. Voilà. Et l'objectif de l'association, c'est l'interdiction des pesticides, c'est d'arriver à une agriculture qui n'utilise plus de pesticides et donc de promouvoir l'agriculture bio.
Voilà, alors ça, on va dire, c'est le but ultime, mais vous y allez étape par étape. Et on va peut-être revenir un petit peu sur les différentes avancées. Déjà, une des grandes victoires de ces dernières années, ça a été quand même de pouvoir faire reconnaître comme maladie professionnelle des maladies qui étaient liées aux usages des personnes qui les utilisaient, comme les agriculteurs ou d'autres travailleurs.
Oui. L'avantage d'une maladie professionnelle, c'est qu'elle évite à la personne qui est touchée par cette maladie, d'avoir à faire la preuve de cette maladie. Elle a une démarche à suivre pour en demander à être reconnue, mais il n'y a pas à faire la preuve, on va être en scientifique, du lien entre le métier et la maladie.
Oui, voilà. Parce qu'on peut imaginer...
Cette maladie professionnelle va donner le droit à une rente. Mmh. Et quand on sait les retraites de beaucoup de paysans, la rente souvent est double le revenu de la personne. Mmh. Voilà.
Oui, parce qu'on peut bien imaginer donc tous les problèmes de santé donc qui ont émergé assez récemment finalement, où on a un peu de recul parce que avant on les prenait pas forcément en compte.
L'utilisation intensive des pesticides a commencé dans les années 60 à peu près. Et tous les gens, pour les gens, c'était la panacée, parce que entrecouper à la faucille ou arracher à la main les soi-disant mauvaises herbes dans les champs, un traitement et tout était propre. Donc à l'époque, c'était vécu comme vraiment un progrès qui allait économiser la fatigue, et améliorer les rendements et tout ça. Et effectivement, ça a été ça au départ. Mais on n'a jamais expliqué aux gens, informé, que ces produits allaient être dangereux pour leur santé, pour leur descendance. Voilà. Et aujourd'hui, avec le recul, il y a énormément de gens dans les campagnes qui ont des maladies qui sont liées aux pesticides. Alors, là, je vais expliquer quelles sont les maladies. C'est important parce que si dans votre entourage, vous avez des gens qui ont ces maladies-là, surtout, il faut les informer et les recommander auprès d'associations comme les nôtres. La première maladie, c'est Parkinson. Parkinson, il y a énormément de gens dans nos campagnes qui ont la maladie de Parkinson, qui ne font pas le lien avec leur métier. Ceci dit, c'est une maladie professionnelle du régime agricole liée aux pesticides. La deuxième maladie en nombre, ce sont les lymphomes non-Hodgkiniens, les lymphomes, pour faire court. Voilà.
Donc, c'est-à-dire des cancers ?
C'est des cancers de la lymphe, du sang, ouais. Donc, Parkinson est reconnu depuis 2012 et les lymphomes depuis 2015. Mais en 2019, il y a deux autres maladies qui se sont ajoutées, ce sont les myélomes et les leucémies lymphoïdes chroniques. Voilà. Et enfin, pour terminer le tableau, il y a aussi tout ce qui est maladie du sang, leucémie, voilà, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle les hémopathies. Donc, ces maladies-là, quand, alors il y a souvent deux conditions pour être reconnues, c'est une durée d'exposition. Donc, pour chaque maladie, ça peut être des durées différentes, mais en règle générale, c'est autour de 20 ans. Alors qu'on a été paysan toute sa vie, on a été exposé bien plus que 20 ans. Et la deuxième condition, c'est ce qu'on appelle le délai de prise en charge. C'est le temps qui s'est écoulé entre le dernière utilisation ou contact avec les pesticides et le premier diagnostic médical. Voilà. Quand on satisfait à ces deux conditions, on est reconnu automatiquement en maladie professionnelle. Si on n'est pas reconnu, nous, systématiquement, on conteste et on finit souvent par obtenir la reconnaissance. Et une fois qu'on est reconnu, ça va donner droit, le médecin conseil de la MSA, de la Mutualité sociale agricole, va attribuer ce qu'on appelle un taux d'incapacité permanente partielle, taux d'IPP. Donc plus il est élevé, plus les dégâts de la maladie sont importants. Mais ça permettra à la personne de toucher une rente qui sera proportionnelle à ce taux d'IPP. Le drame, c'est que la MSA, la Mutualité sociale agricole, donc, n'informe pas ses adhérents, ses cotisants, de ce droit à la reconnaissance en maladie professionnelle. Mmh. Elle n'a pas obligation d'informer, elle n'a obligation d'informer que les gens qui en font la demande. Mais comment demander une chose dont on n'est pas au courant?
Mmh, bien sûr. Voilà.
Et nous, un des aspects de notre lutte aussi, c'est face à la MSA, pour contraindre la MSA à informer les gens de leurs droits quant à la reconnaissance en maladie professionnelle, les maladies liées aux pesticides.
Mmh. Alors, on parle des agriculteurs, mais il y a aussi d'autres travailleurs, les personnes qui...
Oui, donc les gens concernés, c'est en priorité les agriculteurs, les paysans. Mais ça peut être aussi les paysagistes. Dans le collectif, on a un certain nombre de paysagistes qui ont utilisé des produits dans leur cadre de leur boulot et qui ont Parkinson, par exemple. C'est aussi les employés des espaces verts des communes. Maintenant, ils n'ont plus le droit d'utiliser les pesticides depuis, je crois, début 2018. Mais auparavant, les communes utilisaient allègrement les pesticides. Ce sont aussi les salariés de coopératives. Dans les coopératives, les gens sont amenés soit à manipuler ces produits-là, soit à les transporter, etc. Voilà. Ce sont les principales catégories de population qui sont concernées par ça.
D'accord. Alors, donc, le collectif dont tu fais partie, donc Michel Bénard, le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, travaille sur vraiment la thématique globale des pesticides, et notamment en rapport direct avec la politique agricole commune et la politique agricole tout court.
Notre objectif est politique au sens politique avec un grand P. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est parce qu'on veut une autre agriculture qui n'utilise plus de pesticides, donc une agriculture sans pesticides. On soutient l'agriculture bio, on veut l'interdiction des pesticides, on veut que ce soit interdit. Notre projet, c'est ça. Et partant de là, on est solidaire aussi, donc on s'oppose en fait à un modèle agricole pour qui les pesticides sont indispensables. Que les fermes s'agrandissent, plus les fermes sont grandes, plus avec très peu de personnel dessus, plus il faut des moyens comme les pesticides pour pouvoir enlever les soi-disant mauvaises herbes sur des grandes surfaces. Donc les pesticides sont un élément indispensable. Mais en même temps, on s'oppose à cet accaparement des terres par des gens de plus en plus grands. On s'oppose à des élevages industriels toujours plus importants. On s'oppose à ces coopératives qui transforment en salariés ou en esclaves les gens qui travaillent pour eux. On s'oppose à tout ce qui est l'artificialisation des sols, les des terres qui sont de plus en plus récupérées pour faire soit des lotissements, des grandes surfaces, des autoroutes et tout ça. Donc ce que je voulais dire, que partant du sujet des pesticides, on s'intéresse à une problématique plus globale qui est notre modèle agricole.
D'accord. Quand on suit un petit peu l'actualité des luttes environnementales, la question de la distance minimum d'épandage par rapport aux habitations, c'est une vraie question qui intéresse beaucoup de monde. Toutes ces personnes qui vivent à la campagne et qui
ou dans des lotissements bordés par des champs,
voilà,
traités.
Ouais, ouais. Et du coup, il y a eu donc en 2018 la loi Egalim pour protéger les riverains des pesticides avec une tentative de mettre en place des chartes d'engagement. Mais finalement, cette loi, elle n'est pas appliquée ou elle n'est pas efficace?
Moi, je ne me positionnerai pas par rapport à la loi Egalim parce qu'elle n'a rien changé par rapport à ça. Il y avait, enfin si, c'est peut-être dans le cadre de la loi Egalim qu'il y avait eu un décret le 5 mai 2017 qui, soi-disant, allait protéger les riverains. En fait, la bagarre des riverains pour éloigner les épandages de pesticides par rapport aux maisons habitées. Mmh. Et donc, c'est une bagarre longue, je ne vais pas tout détailler, mais on a obtenu quelque chose d'insignifiant, mais qui est un début, c'est que, par exemple, pour les cultures basses, il n'y a pas le droit d'épandre à moins de 5 mètres de la limite de parcelle, et pour les cultures telles que les vergers ou la vigne, à 10 mètres. Et 20 mètres pour les molécules considérées comme extrêmement dangereuses. Et le gouvernement a fait en sorte que, en plein milieu du Covid, on a ramené les distances de 5 à 3, de 10 à 5 et de 20 à 10. Donc, Covid, maladie respiratoire. Et pendant cet épisode de Covid, on autorise les agriculteurs à revenir traiter pratiquement en limite de propriété. Mmh. Donc, c'est scandaleux, c'est aberrant, c'est scandaleux, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Et comme pour ces chartes, qui dit charte, dit discussion, dit normalement progrès. En fait, là, c'est ça porte le nom de charte, et ça correspond à un régrès, hein, puisqu'on réautorise à venir traiter plus près des maisons. En ce qui concerne la concertation, comme aucune association environnementale n'a accepté de discuter avec la FNSEA, les jeunes agriculteurs, etc., sur la rédaction de ces chartes. Eh ben, ils ont été, par exemple, dans notre région, ils se sont autorisés à écrire que nous, on y avait participé en tant qu'association ainsi qu'aux rivières de Bretagne, sous le prétexte d'une réunion en 2017. C'est-à-dire que c'est du pur mensonge, mais comme il faut faire croire qu'il y a eu un minimum de concertation, ils inventent des choses qui ne sont pas vraies. Donc là, cet après-midi, on a travaillé sur une possible action judiciaire vis-à-vis de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, en leur demandant de supprimer de leurs écrits ce qu'ils ont écrit, puisque c'est un mensonge, quoi. On n'a jamais pas concerté, on a toujours considéré que ces chartes étaient bidons, que n'étaient qu'un prétexte pour revenir en arrière.
D'accord. En fait, pour revenir un petit peu sur le soutien au maire de Langouette qui a donc fait un arrêté municipal en mai 2019 pour interdire les pesticides à moins de 150 mètres des habitations, il a été suivi par plus d'une centaine de maires qui ont fait la même chose malgré le fait que l'État, via la préfecture, lui a interdit de prendre cet arrêté municipal. Il y a eu quand même d'autres maires qui ont fait la même chose. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette histoire ?
Bon, ben, aujourd'hui, on va dire que ça s'est un peu calmé, hein. Donc, Daniel Koeff avait pris cette décision au mois de mai 2019. Ici, dans la région, il y a eu une très forte mobilisation. Quand il a été convoqué au tribunal, je crois que c'était le 22 août l'année dernière, il y avait plus de 1000 personnes devant la porte du tribunal. Donc, c'est vrai que cet acte-là, pour nous, il y a un avant et un après cet arrêté de l'angoisse. Donc, il a été annulé par la justice parce que ils ont déclaré, les tribunaux administratifs ont déclaré que les maires étaient incompétents pour prendre des décisions de cette nature. Ça remontait au ministère de l'Agriculture. Mais on nage en plein, les maires sont les mieux placés pour apprécier ce qui relèvent de la santé de leurs habitants. Mmh. Et voilà, on a affaire à l'agriculture, elle est contrôlée par la FNSEA, par des lobbies qui ne lâcheront que sous la contrainte l'utilisation des pesticides et qui sont relayés totalement par le pouvoir politique actuel, quoi. Mmh. Donc les arrêtés, ben ils ont tous été annulés, mais ce que ça a permis quand même, ça a été cette décision à l'Angleterre a fait avancer la prise de conscience sur le danger des pesticides à proximité des habitations, plus que des années de réunions et de comptes rendus qui n'avançaient pas vraiment. Ça a été une prise de conscience de la population. Comment ça va évoluer, je ne sais pas dire, mais bon, on peut espérer, bon, on vient de voir aux dernières municipales quand même, nous, bien qu'on soit, on ne soutienne aucun parti particulièrement, mais on a bien vu que dans les programmes électoraux, il y a des communes qui ont mis, enfin par exemple la ville de Rennes, est-ce qu'ils le feront ou pas, ça, mais en 2025 la ville de Rennes s'engage à ce qu'il n'y ait plus de pesticides sur sa surface. Bon, c'est pas trop facile pour une grande ville parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, mais surtout ils s'engagent pour 2030 en disant plus de pesticides sur la métropole rennaise. Alors là, bon, on attend de voir, bon. Mais on peut espérer que les choses vont avancer dans ce sens-là.
Il y a peut-être un bon terrain d'expérimentation qui se joue.
Voilà. Mais il n'y a qu'une manière de faire que ça évolue vraiment, c'est la pression sur le terrain, c'est l'action sur le terrain. C'est l'action de chacun d'entre nous à son niveau, c'est-à-dire au niveau de sa commune. La commune est vraiment pour nous un échelon où on peut faire avancer des gens. Mmh. Parce que là, on peut vraiment discuter avec des gens qui partagent pas nos points de vue. On peut mettre la pression sur les mairies pour qu'elles n'oublient pas leurs promesses de campagne, etc.
D'accord. Alors,
un Michel... autre biais aussi, c'est les cantines bio. On est convaincu que des cantines bio 100% bio, c'est un sacré levier pour créer une demande en agriculture biologique dans nos campagnes à proximité de nous-mêmes, quoi, en local et en bio.
Stand up on your two feet, baby. That's how it's gonna Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby. Stand up. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. You got to raise your head to the sky, see the love in your eyes. You got to make a move, you got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up,
stand up,
baby,
baby,
stand up. You got to stand up, baby.
Alors, donc là, on entend bien, hein, Michel Bénard, sans rentrer trop dans les détails, que ce sont des batailles juridiques assez complexes, longues. On fait un pas en avant, on fait un autre pas en arrière, ça avance difficilement. Il y a quelque part de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Effectivement, le confinement qui, comme sur certains autres domaines, hein, a permis au gouvernement de faire passer un peu en douce des lois qui régressent, en tout cas sur les questions d'environnement. Et malgré le fait qu'il y ait eu des campagnes extrêmement, extrêmement suivies par la population, comme « Nous voulons des coquelicots », qui est un appel pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse, avec plus de 1 million de signatures. Et il y avait eu aussi auparavant l'épicerie. Alors, les plus loin, pisserie, avec des pisseurs volontaires qui...
De glyphosate.
Voilà, qui avait voulu...
Des pisseurs involontaires.
Involontaires. Alors, vous pouvez nous raconter tout ça et ce mouvement populaire, parce que quand même plus d'un million de personnes signent une pétition, c'est que...
Donc, on va parler des deux choses. Je vais commencer par les pisseurs involontaires de glyphosate. Donc, c'est parti de l'Ariège. Hein, le mouvement est parti de l'Ariège, où plusieurs dizaines de personnes ont fait analyser leurs urines. Et dans leurs urines, le laboratoire allemand a fait l'analyse des urines. Et dans les urines de tous, mangeurs de bio ou pas, tout le monde a du glyphosate dans ses urines. Et de là, il y a un mouvement qui s'est développé.
Le glyphosate, du coup, c'est quand même un pesticide qui est reconnu comme cancérigène.
Qui est reconnu cancérigène par le CIRC, mais pas par l'ESFA, l'organisme de l'Europe. Mais bon... on va dire qui est reconnu comme cancérigène et qui est la molécule la plus utilisée par la milieu agricole. Et donc il y a d'autres groupes qui se sont formés un peu partout en France. En Bretagne, on a été très nombreux à aller, entre guillemets, pisser et faire analyser nos urines. Et on a déposé des plaintes collectives auprès des tribunaux pour demander l'interdiction du glyphosate. Donc ça, c'est un mouvement qui a été extrêmement populaire, qui est toujours, bon, mais il y a eu une phase l'année dernière surtout.
Oui, juste pour revenir sur ça, comment on peut expliquer que des personnes qui mangent bio, a priori sans glyphosate, se retrouvent avec du glyphosate dans les urines?
Ben, je crois donc effectivement l'alimentation est sûrement le principal vecteur, mais il y a aussi l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, etc. Parce que le métabolite du glyphosate s'appelle l'AMPA, c'est-à-dire un produit de dégradation du glyphosate, il se retrouve toujours dans l'eau, y compris potable, quoi. Voilà. Donc, c'est l'alimentation et l'air, je pense, qui sont les principaux vecteurs du fait qu'on retrouve du glyphosate. Ce qui nous étonne beaucoup, sans savoir tellement l'expliquer, c'est que souvent les enfants, y compris les enfants dont les parents, les enfants sont nourris en bio, ce sont eux souvent qui ont les concentrations les plus importantes de glyphosate. Pourquoi, je ne sais pas dire. Donc ça, il y a eu cette campagne contre le glyphosate. Et la deuxième mouvement depuis 2 ans, qui devrait se terminer normalement au mois de septembre, c'est le mouvement des coquelicots, lancé par Fabrice Nicolino et François Veillat de Génération Future, en septembre il y a 2 ans, et qui a mobilisé beaucoup de gens à travers de toute la France de manière informelle, en se réunissant chaque premier vendredi du mois vers 18h, 18h30, devant la mairie. Après, libre à chaque groupe de trouver des actions significatives pour faire connaître notre souhait d'interdire les pesticides, une agriculture sans pesticides. Et donc ça, vraiment, ça...
On peut toujours
beaucoup
signer.
D'énergie a été... Ça a permis de cristalliser beaucoup d'énergie partout en France.
Et alors, pour finir sur une note positive, Michel Bénard, sur l'autonomie alimentaire et la limitation des projets comme des grosses fermes-usines ou des projets de méthanisation, qui sont plus au niveau industriel un désastre qu'une vraie solution, est-ce que il y a actuellement des luttes importantes en France qu'on pourrait essayer de soutenir en direct?
Donc nous, il y a vraiment beaucoup de collectifs contre ces élevages industriels, également la méthanisation. Alors on n'est pas contre la méthanisation en soi. Une méthanisation, une petite méthanisation sur une ferme qui traite ses propres rejets, déchets pour les réintroduire dans son fonctionnement agricole, sous forme d'électricité, de chaleur, etc. En soi, c'est pas un problème. Mmh. Mais on parle pas de ces projets-là, on parle des projets industriels soutenus par les grands groupes. Mmh. Évidemment, si on va nourrir un méthaniseur avec du maïs, le maïs, on va peut-être l'irriguer, donc là, pour l'utilisation de l'eau, et on va surtout, on va pas le faire en bio, le maïs. Il va être fait avec force pesticides. C'est vraiment un système qui tourne en boucle et qui va dans le mur, quoi.
D'accord. Et puis là, c'est vraiment dévoyer justement l'agriculture de sa fonction première, c'est-à-dire de nourrir les êtres vivants, les humains, les animaux.
Voilà.
Mais c'est la détourner pour produire de l'énergie. Et on sait que le bilan de ce côté-là, des agrocarburants notamment, est vraiment très très mauvais. Et on peut toujours signer l'appel, l'appel des nous voulons des coquelicots pour demander l'interdiction des pesticides de synthèse.
Voilà.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet. Oui,